Épilogue. Le chihuahua s'appelle Diego. Freddy trouve que c'est un nom superbe pour un chien d'Amérique latine. L'animal le suit jusqu'à la porte de chez Romola quand il part. Romola ne l'accompagne pas. Elle est assise à la table de la cuisine et sa mère, qui s'appelle Maxine et qui est très gentille, sert le dîner. Romola ne le raccompagne jamais à la porte quand il part. Elle ne lui dit jamais au revoir à la fin d'un rendez-vous ou d'un coup de téléphone. Elle dit que ça la met mal à l'aise. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est tout. Maxine l'a invité à dîner, mais ils vont manger de l'agneau et Freddy n'aime pas ça. La viande est trop texturée, le goût trop fort. En plus, son père a laissé entendre qu'il se ferait peut-être livrer à manger ce soir. Freddy salue Diego, referme la porte de la petite maison de Romola derrière lui et marche 5 minutes jusque chez lui. Ils ont quitté la maison jaune de Melville Heights et habitent désormais dans un bel appartement avec 2 chambres à l'étage d'une maison géorgienne située tout près du collège de Freddy. C'était dommage d'avoir dû quitter la grande maison sur la colline, surtout juste après avoir dépensé tout cet argent pour la faire repeindre. Mais c'était devenu une scène de crime. Et qui a envie de vivre dans une scène de crime? Réflexion faite, lui, ça ne l'aurait pas vraiment dérangé, après tout ce qu'il s'était passé avec la police l'année précédente. Il avait dû avouer à son père avoir placé le pompon des chaussures de chaperon rouge sur la scène de crime pour essayer de lui faire porter le chapeau. Puis il avait attendu devant la porte de la salle d'interrogatoire pendant que son père racontait à la police ce qu'il avait fait. Depuis, Freddy était obsédé par les enquêtes criminelles. Il ne voulait plus travailler pour le MI5. Il voulait devenir inspecteur de la police scientifique. L'éducation nationale avait demandé à son père de quitter son poste. La situation était devenue trop compliquée à gérer, lui avait-on dit. Il s'était simplement occupé d'aider de loin les élèves de 3e à préparer leurs examens. Depuis les grandes vacances, son père ne travaille plus. Il dit qu'il veut prendre du temps pour lui avant de décider ce qu'il va faire. Le temps libre de Freddy est maintenant dédié à Romola, qu'il voit tous les jours, même si c'est seulement 5 minutes après les cours. À son psychologue, une fois par semaine, ce qui est à la fois ennuyeux et intéressant. Et aux recherches sur sa mère. Après son meurtre, Freddy s'était rendu compte qu'il ne la connaissait pas du tout. Rebecca Mullen l'avait tuée parce qu'elle avait harcelé sa sœur. Rebecca Mullen disait que sa mère était une femme horrible et mauvaise, que tout le monde au collège avait vécu dans la terreur à cause d'elle et de ses acolytes. Pourtant, pour Freddy, c'était juste une maman. Elle ne l'avait jamais harcelée, ne lui avait jamais crié dessus et ne lui avait jamais fait peur. Mis à part cette dernière fois quand elle était malade et qu'elle l'avait traitée de petite merde et l'avait poussée du lit. À ce moment-là, il avait découvert la possibilité de cet autre Nicolas. C'était son nouveau projet nommé « L'information », d'après un autre roman de Martin Amis, car c'était ce qu'il recherchait, des informations sur sa mère. Pour essayer de comprendre qui elle était. Il a rapporté les affaires de sa mère de la maison de Melville dans 3 gros cartons qui s'appellent « L'information 1 »,« L'information 2 » et « L'information 3 ». Il examine chacun des éléments avec une précaution infinie et accompagne sa recherche de discussions avec son père, qui sont en général très infructueuses. Visiblement, il ignore tout de la vie de sa femme, de ses centres d'intérêt. Il dit que quand il l'a rencontrée dans le bus, quand elle avait 19 ans et que lui en avait 35, il ne savait pas qu'elle avait harcelé Viva Hart jusqu'à la pousser au suicide. Il ne savait pas que cette Nicolas Lee aux cheveux châtains était la même personne que la blonde Nikki Lee. Il n'avait jamais fait le rapprochement. Jusqu'à ce qu'il soit face à la mère de Viva Hart au bord du lac. Là, il avait compris et tout s'était éclairé. Il n'avait pas réussi à bien lui expliquer ce qu'il entendait par cette expression. Tout ce qu'il lui avait dit, c'est que sa mère avait toujours eu un penchant cruel et qu'il avait enfin compris de quoi il s'agissait. Freddy avait pris en note l'expression « penchant cruel » et y avait longuement réfléchi, se demandant notamment s'il avait hérité ça de sa mère à cause des choses mauvaises qu'il faisait en secret ou qu'il disait parfois. Enfin, hier, Freddy avait trouvé quelque chose de très étrange dans ses affaires, dans une boîte remplie de ses souvenirs d'adolescence. C'était dans une enveloppe longue si vieille que la colle était devenue une sorte de croûte jaune vif. Il n'y avait rien d'écrit sur l'enveloppe, mais à l'intérieur, il y avait une mèche de cheveux sombre et brillant attachée avec un élastique. Freddy la porte à son père après leur dîner. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-il en poussant l'enveloppe vers son père. Les cheveux sont beaucoup trop longs pour avoir appartenu à Freddy, et trop foncés pour être ceux de sa mère. Freddy a l'impression désagréable de savoir à qui ils appartiennent. Les mots de l'article de journal l'ont hanté toute la journée. Il veut cependant donner à son père une chance de proposer une explication alternative qui serait moins répugnante. Il observe son père qui regarde dans l'enveloppe et attrape la mèche du bout des doigts. « Où est-ce que tu as trouvé ça ?»«
Dans les affaires de maman. »
Son père fixe l'enveloppe.
« Ce sont les cheveux de qui ?»
Le visage de son père devient gris et sa peau donne l'impression de s'être détachée de ses os. Il le voit déglutir. Freddy attend que son père dise quelque chose. Mais il se tait.
Vous venez d'écouter « Tout est secret » de Lisa Jewell, traduit de l'anglais par Adèle Roland-Ledem, lu par Maud Rudigoz. Une production Ardigan.